Children, I thought today would be a very good day for us to start tidying up the nursery. We have a lot to get done, and there's no time for foolishness. I told you she'd be boring. Now, Michael. We are going to have fun, right, Mary Poppins? Well, of course we are. I'm Mary Poppins, fool. I have a special secret remedy that I often use to keep myself busy while cleaning. It perfects it, makes it so much fun and easy to do. You think fun is just for children? Of course not. Adults have fun while cleaning all the time. See, adults use a special pill called ecstasy, often referred to as X. Atrocious. Where to begin? We have a lot to get done, children. You children are so messy. I'm gonna need a lot of ecstasy. Oh, who left this window open? Oh my goodness, there are birds outside. They probably have that bird flu. Excuse me, birds. Could you please get your bitch asses out of the window? They don't hear me, do they? Hello? Please, sir, can you please get out of the windowsill? Can you hear me on that bridge? Hello? Oh my god! Oh, you speak English? Oh, he's trying to sell us something. Let's see. Mr. Bird, these children want to know. These children want to know how to clean up.
Well, what I want to do is pay some ecstasy before I clean.
See, children, Mr. Bird knows everything as well. So, now that I've taken my ecstasy, it's starting to kick in. I'm not feeling very well.
Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors bonjour et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique. En votre compagnie, François Gécouillard pour une nouvelle émission de sur les jeux, jeux de plateau, jeux vidéo, jeux de rôle, grandeur nature, name it. Nous autres, on n'est pas racistes, on s'intéresse à tous les jeux. Et aujourd'hui, un petit, peut-être une petite wrap-up sur ce qui s'en vient. On va avoir une entrevue avec Alexandre Desrosiers, directeur artistique de Guitar Hero Smash It, il travaille chez Binox. Alors, ça vient de sortir, Smash It, le dernier opus de Guitar Hero. C'est quelque chose, c'est un gros joueur. On est fiers parce que c'est développé à Québec. Alors, on a Alexandre avec nous pour nous en parler. Ça va être tout de suite après la pièce qui s'en vient. Sinon, on va avoir aussi une chronique jeu rétro avec votre préféré, Mathieu Place. On va avoir aussi une entrevue avec Geoffroy Lemonde des Éditions Légendes qui va nous parler d'une sorte de BD inspiré de Donjons Dragons, donc une BD là, sur le bon vieux jeu de nos sous-sols du temps que nous étions des jeunes ados. Et finalement, ça va être pas mal ça l'émission aujourd'hui. Donc vous êtes à Puissance Maximale, c'est François Gécouillard, et on va aller écouter une pièce musicale dans un instant. Donc, à chaque semaine d'ici le Festival Off, on va passer une pièce de la Toy Company. La Toy Company, c'est un collectif qui fait dans la musique électro 8-bit, musique électro chiptune. Et c'est un nouveau collectif. On les encourage et on veut évidemment les encourager pour leur prestation au Festival Off. Ça va être gros. Ça va être beaucoup de musique 8-bit pour les amateurs de jeux vidéo. Et on va passer une pièce à chaque semaine. Cette semaine, ça va être Taxi Nouveau. Et la pièce Créatine Contine, c'est de la musique électro, c'est assez dansant. Donc évidemment, si on est dans la voiture, on s'abstient évidemment de danser, parce qu'il n'y a pas d'espace, et vous pouvez peut-être causer des accidents. Mais sinon, les gens qui sont à la maison, gênez-vous pas pour tasser les meubles et de vous déhancher lubriquement. Il n'y a pas de problème. We'll be right back.
bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites.
Après un an de développement, l'équipe de Beenox Activision Québec a développé le dernier opus de la série de Guitar Hero, Guitar Hero Smash Hits. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Alexandre Desrosiers, directeur artistique sur Smash Hits. Bonjour Alexandre.
Bonjour, ça va bien?
Écoute, parle-nous un peu peut-être des débuts là, du développement. Ça fait un an, je pense, que vous travaillez sur ce jeu-là.
Oui, Guitar Hero Smash Hits, le développement s'est étalé sur une période de 12 mois.
Et là, vous avez engagé 20 nouveaux employés spécialement pour ce jeu-là.
Ah, je te dirais 93% était du nouveau staff. Là. On a constitué l'équipe de 40 personnes en tout là, à partir de ressources internes et externes, mais la plupart là, venaient de l'extérieur.
Et donc, toi-même, est-ce que tu étais un nouveau?
Oui, j'étais un nouveau. Je travaillais déjà dans l'industrie du jeu pour une autre entreprise ici à Québec et le projet m'intéressait. C'était vraiment ça là, qui m'a allumé. Donc, j'ai postulé et finalement, ça s'est fait très rapidement. Là. J'avais les qualifications et je suis arrivé chez Beenox sur le projet.
Et donc, là, dis-moi, sur 20 employés, sur 20 nouveaux, combien il y avait de musiciens?
Ah, regarde, je pense qu'on l'était... Je te dirais que le 3 quarts, 75%, là, le 30, au moins une trentaine de personnes là, avaient déjà beaucoup d'affinités musicales. Là. Fallait, t'as des gars qui ont des formations là, en musicales, il y en a qui ont des bandes, tout ça, il y en a qui ont déjà fait participer à d'autres types de productions. Moi, j'ai déjà été musicien aussi. Là, pendant une couple d'années, j'ai eu mon band hommage, tout ça. J'ai roulé ma bosse là-dedans. Donc aujourd'hui.
Tu avais un band hommage, c'est-à-dire que tu faisais des reprises?
Oh, oui, exactement.
Des reprises de quoi?
Je faisais un hommage à ACDC. Fait que j'ai fait des festivals, des bars, puis je me suis allé à la tête pas mal. Là.
T'as fait du headbanging à masse?
Ouais. J'ai brisé des guitares aussi.
Ah oui, t'as fait ça?
Oh, ouais, à force de faire le fou. C'est des choses qui arrivent. De se faire mal aussi.
Et Mathieu Place qui est avec nous aussi, qui peut poser des questions quand tu
ben oui,
lui plaît.
Je suis un grand fan de ACDC aussi. Ouais. Alors, ça me rassure de voir que c'est des fans de musique rock qui font les jeux de.
Il faut.
Ben oui, ben oui.
Mais là, ça doit être encore plus facile briser une guitare en plastique qu'une vraie guitare.
Ah, j'ai pas essayé encore.
T'as pas essayé?
Non, question d'éthique, j'ai pas essayé au travail. Hein.
Mais ça a moins de style que sur une scène.
C'est vrai qu'au travail, on se garde une petite gêne quand
ouais,
même.
C'est
ça paraît mal de briser le matériel. Donc, peut-être, parle-nous un peu des autres, les autres musiciens. Là, il y en a, il paraît, qui ont quitté leur emploi qu'ils faisaient pour, spécifiquement pour commencer là, à travailler sur Guitar Hero Smash Hits.
Oh oui, c'est ça. Tu avais des vendeurs qui travaillaient dans des magasins de musique. Tu avais des gars qui, même, on a des avocats de formation, on a des chimistes. Il y a des gens de partout au Québec, du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie. De la Beauce, de Montréal. Il y en a qui se sont expatriés de Montréal, venaient travailler.
Ah oui?
Oh, oui. fait que c'est ça, on a vraiment de tous les sortes.
Donc, les autres, ils ont dit, je lâche ma job, je déménage, j'amène ma blonde avec moi, mes enfants, puis on s'installe à Québec. Ils ont juste pour jouer à guitar, ben, pour travailler sur Guitar Hero Smash It.
Oui, il y en a que c'est ça que ça a fait.
C'est de la passion.
Ça se peut-tu qu'il y ait un peu de glamour autour de ce jeu-là?
Ben, c'est ça, regarde, c'est, comme je disais tantôt, c'est des belles opportunités. Là, une licence de cette ampleur-là qui arrive à Québec. Bon, au début, quand on s'est fait proposer le projet chez Beenox de la part d'Activision à 3 jours du 1er avril, tu te dis, ben, c'est un poisson, c'est une joke. Mais ben, non, c'est vraiment, OK, c'est vraiment ça. Bon, à cette heure, ben, on s'en vire de bord, puis on fait des appels à tous, il faut recruter, puis on ouvre le capot, comment c'est fait un Guitar Hero. C'est le fun de jouer à la maison, tout ça, là, c'est très social, mais comment c'est fait? Fait qu'on part en recrutement après ça, on s'approprie toute la bête finalement. Ouais, c'est toute une aventure.
Mais attends un peu, est-ce que c'est celui-là qui a des paysages de Québec dans le jeu? Je me trompe-tu?
Non, tu te trompes pas.
Non, c'est ça. Il faut en parler.
Il y a plein de grandes merveilles. Il y a le Grand Canyon, il y a les jungles amazoniennes.
Il y a la calotte polaire, il y a les pyramides, il y a le sphinx. Là, je t'en dévoile
plus. Et le château
Frontenac. Oui, le château Frontenac. Bon, OK.
Comment vous avez pu le passer?
Comment on a pu le passer? Ben, regarde, je vais t'expliquer l'histoire telle qu'elle est. Bon, OK, on est tout en place, l'équipe, tout ça. Faut développer les concept de scène, finalement. Okay. Ça relève de moi, tout ça. Bon, en brainstorm, en équipe, on se dit « Bon, hey, Québec, on fait ça à Québec, on fait ça à Québec. » Là, c'est revenu souvent, on s'est dit « Ben, ouais, pourquoi pas, on va le faire. On va le proposer à Activision. »
Hein, ouais.
Puis là, ben, ça a passé. Activision nous ont dit « Ben, regarde, si vous y croyez, faites-le. » Puis c'est ça. Ben là, à cette heure, il fallait se poser la question « Comment on amène ça? » C'était, on aurait pu y aller très, très cliché. T'sais, à Québec, on connaît la place quand t'as un show de musique. C'était à l'Agora, c'est sur les plaines. Tout ça. L'idée, c'était pas de refaire les plaines intégrales, mettre ça dans le jeu. Non. L'idée, c'était de mettre notre Québec, puis de prendre des éléments qui font la reconnaissance là, de la ville au niveau de son architecture, sortir ça de leur contexte, d'amener ça autrement. J'ai pris les portes Saint-Jean, j'ai pris des bouts de la citadelle, j'ai mis ça dans le fleuve, on a pris des vieux bateaux, on a accroché des spots sur les mâts. On voit Québec en panorama, c'est comme on la voit comme quand tu prends la traverse Québec-Lévis. Mm-hmm. Ben tu peux voir la ville comme ça, sauf avec une scène qui est complètement imaginaire, faite à partir de bouts de Québec. Pis on a fait le gros parquet là-dedans. Donc quelqu'un qui connaît pas Québec, qui vient pas de Québec, qui a jamais vu ça,
imaginer que Québec c'est la ville la plus hot au monde.
Oui.
Il y a des bateaux dans la rivière.
Exactement. Ou va arriver dans un bel environnement qui fit là, dans un jeu comme Guitar Hero. Puis quelqu'un qui connaît Québec, ben il va tout simplement arriver puis il va reconnaître sa ville puis il va juste être plus content, c'est tout.
Waouh, en tout cas. Ouais. C'est vraiment un beau coup, là, ça, franchement. Là.
Et c'est pas la seule chose, c'est pas le seul clin d'œil à la ville de Québec que vous avez fait. Il paraît que vous avez numérisé même un des employés de Binox. Peux-tu nous raconter un peu comment c'est arrivé?
Oui, ben c'est un peu un hommage qu'on a voulu rendre à Mario Greendale, un des employés de Binox qui est décédé l'an passé. En même temps, un peu que la production de Guitar Hero. Donc, on s'est dit que c'était une belle occasion de lui rendre hommage. Donc, on l'a fait en 3D, on l'a habillé avec son t-shirt Binox qu'il avait l'habitude de mettre.
Ah oui?
Et il fait partie des rockers avec Axel Steel,
Casey Lynch. Mais c'est pas rien. C'est incroyable, ça veut dire que vous avez immortalisé ce gars-là. C'est incroyable.
Oui, oui, c'est quelque chose. Pour ceux qui l'ont connu, là, quand tu le vois pour la première fois bouger là, à travers les décors, c'est un choc. Là. C'est quelque chose. C'est un bel hommage.
Qu'est-ce qu'a dit sa famille, justement?
Ah, sa famille, on a pris les ententes avec eux. Il était très content de ça.
Il
a accepté, oui.
C'est bien, c'est encourageant. C'est le fun parce que moi, en tout cas, moi, je serais vraiment honoré si ça peut arriver.
Ben oui.
Mais il y en a peut-être qui pourraient mal le prendre, mais bon, c'est pas le cas dans ce cas-ci, on est content. Donc, dans ce Guitar Hero Smash It, c'est la première fois qu'ils sont utilisés les bandes originales des tunes.
Oui. Guitar Hero Smash It, là, avant ça, c'était des bandes de cover dans Guitar Hero, si on se rappelle, Guitar Hero 2, okay. Ouais, même le 3, c'était pas les versions originales. Question de droit, question d'avoir d'accès aux bandes. Donc, pour la première fois depuis World Tour, nous, on a repris Guitar Hero Smash It, c'est la compilation des chansons les plus populaires des premiers épisodes de Guitar Hero. Le premier, le deuxième, le troisième.
On va donner quelques titres. Là. Il y a Bark at the Moon d'Ozzy Osbourne, Smoke at Underwater de Deep Purple, Back in the Saddle d'Aerosmith, etc.
C'est ça. Nous, on a repris ces chansons-là. On a trouvé les bandes originales et on les a mis dans le jeu. C'est plus précis. On a adapté l'édition des notes par-dessus. Donc, si vous entendez une chanson de Deep Purple, c'est vraiment Richie Blackmore puis Ian Gillan que vous entendez jouer.
Et pourquoi c'est juste dans cette fois-là, pourquoi c'est exceptionnellement dans Smash It, que là, c'est la première fois que ça arrive?
Ben, ça a commencé avec World Tour.
OK.
Mais là, de pouvoir les avoir, c'est parce que c'est pas tout le temps évident d'avoir accès aux bandes
maîtresses.
C'est
vraiment une question de droit?
Oui, de droit, de que les maisons de disques acceptent de nous passer les vraies bandes, d'ajuster ça. Et c'est quand même des légendes, ces bandes-là. Quand on reçoit une piste originale de Nirvana ou de Motley Crue, tu sais, comment...
Ah, c'est les pistes originales que vous avez, là.
Oui, on en reçoit. Puis, tu sais, pour... Oui, c'est ça. Puis, pour... Oui, toutes les tracks séparées, le drum à part, la base à part, okay. Tout, là. Fait que t'entends tous les défauts, les choses qui n'ont pas édité, c'est là. Pour plusieurs raisons, à travers les années, une bande peut se perdre ou peut... À l'époque, le tape analogique coûtait cher, donc il le réutilisait quand l'album était sorti. Ouais. Donc, tu sais, ça arrive. Donc, le critère pour être dans le jeu Smash It, c'était d'avoir accès aux bandes originales et aussi qu'il y ait un fun factor, que ce soit le fun à jouer en groupe, parce que maintenant c'est sur tous les instruments. C'était une demande là, un peu de la communauté là, de Guitar Hero d'avoir ces anciennes chansons-là, les classiques finalement adaptées sur quatre instruments.
Écoute, là, il y a une affaire que j'aimerais ça savoir, puis je suis certain que tout le monde est curieux comme moi. C'est, vous avez engagé plusieurs musiciens, tu m'en as parlé tantôt, plusieurs dizaines de musiciens même pour travailler sur Guitar Hero Smash It. Et là, on s'entend, c'est simplement mettre des pitounes au bon endroit. Tu sais, quand on joue, mettons, quand on joue avec la guitare, on veut que le piton jaune corresponde à une tablature dans la pièce. Bon, veux-tu me dire comment c'est sûr que c'est aussi long que ça pour mettre des pitounes aux bons endroits?
Ben, c'est sûr, ça a l'air long, mais c'est un processus. C'est comme, je sais pas, ceux qui sont familiers avec l'industrie.
Du...
Non, c'est comme du game design. C'est note par note d'aller écouter le solo de guitare, le réécouter, s'assurer que l'intégrale de la chanson va être très bien reproduite. Le but, c'est que l'expérience pour le joueur soit vraiment là, fidèle à la réalité, qu'il ait vraiment l'impression de jouer la vraie chanson. Si on place ça un peu rapidement là, à l'oreille, il faut vraiment travailler puis s'assurer que le travail est très, très, très précis. Et ça, sur tous les niveaux de difficulté, parce qu'on part de débutant jusqu'à expert plus. Donc, il faut que le fun soit distribué sur tous ces niveaux-là. C'est pour ceux-là, les musiciens experts qui savent jouer à Guitar Hero là, depuis longtemps, qui sont excellents. Bon, ils savent, ils ont l'impression de jouer la vraie chanson note par note. Mais au niveau débutant ou moyen, c'est sûr qu'on en coupe, mais il faut quand même que le fun soit là. Donc, c'est de la révision, c'est beaucoup d'adaptation. Il faut vraiment avoir une bonne oreille puis maîtriser les logiciels d'édition de musique comme sonore.
Ça peut être long, comment justement pour faire une pièce, là, une seule pièce? Disons, Backmark at the Moon d'Ozzy Osbourne. Ça peut prendre combien de temps à fabriquer ça?
Bon, exactement, ça dépend des pièces. Environ, là, pour toute le band, moi, je pourrais te dire une semaine en tout par chanson.
Ah,
et
oui.
Ensuite, on rentre en phase de révision. Pour approuver le tout, on effectue les tests là-dessus.
Il y a des censeurs qui viennent, ils disent ah, c'est pas tout à fait ça.
tout est testé vraiment là, dans plusieurs départements d'Activision, ici chez Binox à l'interne, pour s'assurer qu'on a vraiment fait la meilleure édition de piste finalement. Là.
OK. Tout à l'heure, tu parlais un peu des opportunités que ça pouvait offrir Guitar Hero Smash Hits. Les gens, ça faisait une carte d'affaires après ça. Les gens, ça fait une belle visibilité, une belle expérience, tout ça. Peux-tu parler peut-être justement des opportunités d'emploi chez Binox? Là? Il y a plein de jeunes qui écoutent, peut-être qui aimeraient ça travailler là. Comment ça marche?
Bon, OK. Chez Binox, premièrement, on a fini notre grande phase d'expansion là, qui était dans l'engager environ 200 employés. Mm-hmm. L'objectif est atteint. Donc, aussi, autre objectif que Binox avait, c'était d'être capable d'avoir 3 projets en production en même temps.
Simultané.
Okay. Donc, ça aussi, l'objectif est atteint. Nous, donc, pour le moment, les équipes sont complètes. C'est sûr, on est toujours à la recherche de talents exceptionnels pour occuper certains postes spécifiques. Ça, il faut se tenir au courant. On va sur le site internet de Binox. On peut s'abonner à Jobboom aussi. Les offres d'emploi sortent là. Aussi, nos objectifs de projet, c'est vraiment en termes de quantité et en type de projet. On va se faire proposer des projets par Activision vu qu'on est une division. On appartient à eux depuis 2005. Et tout dépendant de ce qu'on va se faire offrir, on va ajuster nos perspectives d'embauche par rapport à ça. Là.
Peut-être lundi, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée?
Lundi, c'est sûr.
L'École nationale de divertissement interactif?
C'est une nouvelle école là, spécialisée là, pour introduire des nouvelles personnes dans l'industrie. Là. Oui, tout à fait.
Bon, ben, vous êtes fixé si vous voulez travailler chez Binox. C'est possible de le faire en passant par lundi. Sinon, Alexandre Desrosiers, ça serait fun d'entendre un peu parler de toi. Toi, donc, t'es de l'école de la musique.
Parle-nous de toi.
Mais est-ce que t'es un joueur aussi?
De Guitar Hero?
Un joueur tout court, un joueur de jeux vidéo ou un joueur de jeux de plateau, qui sait?
Ben, premièrement, moi, à la base, j'étais un musicien, OK? C'est vraiment ma passion. J'étais un mélomane. J'étais un mordu de tout ce qui est du rock. J'étais un encyclopédie, là. J'ai lu beaucoup depuis que je suis jeune.
À ce point-là.
Je me sauvais de chez ma mère. Je courais les choses. Je me faisais des fugues à Toronto. J'y disais pas. Là, à Québec, Montréal. Je courais après ça. Aujourd'hui, c'est sûr, j'ai plus vraiment le temps. Mais c'est quand même une grosse passion pour moi. Uh-huh. J'ai appris à écouter de la musique avec les vieux vinyles que je trouvais un peu partout. J'avais pas d'argent, je m'achetais des disques à 2$.
Là, on parle de quelle musique? Là,
pendant que les gens écoutaient du punk, du Rancid, du Pennywise, moi, j'écoutais de la Zeppelin, des Purple, ces vieux trucs-là, finalement. Mais j'ai évolué. Du prog, oui, du vieux prog anglais, tout ça. Emerson, Lake and Palmer, Chocolate King, toutes sortes de vieilles affaires comme ça. J'ai passé à travers ça. Donc, bon, de ça est émanée une passion, vraiment. Je me suis mis à jouer de la musique. J'ai été musicien pendant... comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant 8 ans dans un groupe hommage. Ensuite de ça, moi, je suis graphiste de métier. J'ai étudié, j'ai mon deck là-dedans, tout ça. Et j'avais vraiment un gros intérêt marqué pour tout ce qui était multimédia à l'époque, en 2001, tout ça, quand il y a eu comme un boom là-dedans. Le web, je suis vraiment... Là, j'ai bâti mon entreprise en web, tout ça.
OK.
Ça a bien été. J'ai roulé ça pendant un certain temps. Et ensuite de ça, il est venu une opportunité où j'avais l'occasion de peut-être faire mon entrée dans le jeu vidéo. J'avais besoin de nouveaux défis. Le web, à l'époque, j'avais fait un peu le tour. Donc, j'ai rentré dans le jeu et il y a un an, il est arrivé l'opportunité ultime d'allier ma passion pour la musique et tout ce qui est multimédia, le jeu. Et donc, j'ai fait mon entrée chez Binox. Mais c'est sûr, moi, à la base, c'est ça. J'étais un musicien. Le jeu est venu à moi-même là, par la force des choses. Là. Je peux pas dire que j'étais un hardcore gamer, mais tu sais, c'est des choses. Je passe du temps un peu avec ma console de temps en temps pour m'amuser. Mais non, c'est ça. À la base,
justement, ça, parlons-en, c'est quoi tes jeux préférés, peut-être, là, que tu joues là, le plus fréquemment?
Ah, ou... Je peux pas dire que j'ai du jeu vraiment préféré. Moi, je me considère comme un casual gamer. C'est ça, Guitar Hero, c'est mon top one. Mais je vais jouer à des jeux comme Call of Duty. Ensuite de ça, je vais essayer des jeux comme dernièrement, c'est quoi j'ai essayé dont... c'est un jeu de boxe, il était poche. Mais non, je suis plutôt du genre à essayer plein de choses, puis tu sais, quand je m'attends, je revends ça. Je peux pas te dire, mais okay. C'est sûr que...
Casual. Tout...
Ouais, c'est sûr. Donc,
ta blonde va t'aimer.
Ouais, mais ma blonde est plus mordue que moi.
Ah oui? Bon, ben voilà, salut, c'est quoi son prénom?
Dominique.
Salut Dominique, on te salue. Donc, Binox, pour finir, Binox est en plein déménagement. Actuellement, ils sont en train de prendre leurs bureaux qui sont situés sur Saint-Joseph et ils se dirigent sur sur Charret en face de chez Binox, de chez Ubisoft, juste.
Oui.
Donc, en face de votre compétiteur, de votre ennemi juré. Je pense que même l'édifice était un peu plus grand qu'eux autres. Est-ce que c'était juste pour frimer? C'était juste pour les écœurer un
tout
peu?
Tout à fait.
C'était tout prévu, c'était tout marketing.
Ça joue dur dans ce monde-là.
Non, c'est ça, on déménage. Ben, on commence, on fait nos boîtes vendredi.
Donc, et il y a des gros studios, j'imagine.
Oui. Ça va être le Taj Mahal à côté de ce qu'on a présentement, je crois, en termes d'espace. Et notre première journée va être lundi prochain. Là, on a bien hâte.
Ben, on vous souhaite bonne chance à vos nouveaux studios. Merci. Puis continuez à faire des beaux jeux comme ça. On est fiers à Québec. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient, là, dis-moi, chez Binox? Sur quoi vous travaillez, là?
On a vraiment là, un gros projet, c'est sûr. Bon, je peux t'en parler, je peux te dire le scoop, là. Mais vraiment, pour toute l'équipe de Guitar Hero, entre autres, là, le prochain épisode, là, dans les semaines qui s'en viennent, c'est de prendre des vacances.
Tout un scoop. Et vous l'aurez su par Alexandre Desrosiers, directeur artistique de Guitar Hero Smash Hits. Je te remercie beaucoup d'être venu.
Ben, ça me fait plaisir.
Merci. Tu reviens quand tu veux. S'il y a un autre jeu qui sort, là, on verra ce qu'on on s'entendra là-dessus. Sinon, eh bien, on se laisse là-dessus. Merci Alexandre. Et on va écouter une pièce. Ça va être la pièce de Musax.info, la pièce de la semaine de notre collaborateur français de Haute-Garonne, Yannick Capmarty. Ça va être une pièce tirée de Final Fantasy X-2. Vous êtes à puissance maximale.
Final Fantasy X-2 se voit doté d'un changement marquant au niveau des combats. Ces derniers ne se déroulent plus dans une nouvelle scène, mais en temps réel, dans le même lieu où les personnages se trouvent.
Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin.
Et vous êtes de retour à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique. Et nous sommes en compagnie de Mathieu Place, qui va nous parler encore de jeux rétro.
Ben oui, c'est ma spécialité, qu'est-ce que tu veux, les jeux rétro.
On aime ça, les jeux rétro.
Ben oui, c'est ça.
Il y a toujours un peu de rétro, un peu partout, même dans les SPHS, comme on parlait.
Oui.
Tu sais, les pièces, souvent, il y a des pièces assez rétro, assez anciennes.
Ben c'est ça, puis ça nous fait redécouvrir certaines pièces, là. Bon, en tout cas, moi, j'ai redécouvert des groupes de musique que je soupçonnais pas. The Who, Deep Purple, là, pas seulement Smoke on the Water, il y a toutes sortes d'autres pièces là, qui sont intéressantes. Et puis, oui, ça c'est sûr, là, le rétro c'est toujours important, mais là, justement, l'histoire du jeu vidéo commence à s'allonger. Alors, on peut commencer à avoir des rappels à la nostalgie, au rétro, etc. Il y a un aspect new school, old school, on peut jouer avec ça là, maintenant. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Je vous dirais, là, je me suis posé la question cette semaine, qu'est-ce qui est rétro puis qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est, quand est-ce que ça a commencé le rétro? Tu sais, le PlayStation 1, est-ce que c'est rétro? PlayStation 2, ouais, bon, mais c'est dans le passé, etc. Mais est-ce que c'est rétro?
À partir de quel moment ça devient rétro?
Ben, c'est ça. Et puis, en cherchant sur Internet, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui traitent du sujet voient la différenciation entre le rétro et puis, bon, le old school et le new school au moment où le Nintendo 64 est arrivé. C'est-à-dire, là, quand le 3D est arrivé, puis c'est vraiment implanté. Là. Quand Mario 64 est arrivé, et bien là, ça a comme ouvert un autre pan de jeux vidéo. Et puis, le 2D a été délaissé. Tranquillement. Et puis là, on est arrivé avec des jeux pas mal plus produits, beaucoup plus de moyens, etc. Parce que là, la 3D demandait à ce qu'on fasse des univers vraiment très complexes, avec beaucoup de textures.
C'est vrai qu'avec la Nintendo 64, là, on a beaucoup, là, on a fait un grand bond en avant.
Ben, c'est ça, ça a été un grand bond. Puis justement, Mario 64, quand c'est arrivé, ça a été un grand choc pour tout le monde parce que c'était comme si on nous. Carrément, on nous ajoutait une nouvelle dimension qu'on pouvait explorer. Alors, ça donnait beaucoup, beaucoup de liberté. Tu sais, quand ils pensent, les premiers jeux 2D, il y avait quelque chose d'illogique là-dedans. T'sais, les gens, les personnages bougent de gauche à droite. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont quoi? Ils sont sur un fil de fer? Pourquoi ils peuvent
souvent,
pas se tasser?
Ils peuvent pas revenir en arrière.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a comme des espèces de logiques à l'intérieur du jeu qu'on prenait toujours pour acquises, mais finalement, quand on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire, qu'on pouvait aller se promener dans des mondes en 3D, et bien là, ça a fait exploser notre cerveau, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait aller vraiment plus loin. Sauf qu'il y a eu des avantages par rapport à ça. Quand le 3D est arrivé, en tout cas, moi, je me suis posé la question justement cette semaine si j'étais juste un vieux frustré. Là, j'étais en grand questionnement existentiel.
Est-ce que le 3D a amélioré le jeu ou là, au contraire...
Ben, c'est ça. Parce que moi, le 3D, je trouve ça très bien. Là, je joue beaucoup à Grand Theft Auto, mais je trouve que ça a vraiment fait perdre beaucoup de choses aux jeux vidéo. Alors, à savoir si c'est parce que je suis frustré, tu me le diras. Alors, ce qui a été perdu, par exemple, là, dans le 3D, c'est beaucoup la simplicité du jeu. On en a déjà parlé, hein? Mais tu sais, le 3D, c'est qu'il y a beaucoup d'options possibles. On avait plus de possibilités. Alors, on en a ajouté des items, on en a ajouté des décors, on en a ajouté
des combinaisons options, de touches.
Des combinaisons de touches. Ouais. Là, on a 14 000 touches. Ça devient très compliqué. Et puis, c'est très dur de commencer à apprécier un jeu. C'est pour ça que, justement, la Wii a essayé de revenir en arrière puis de faire des choses plus instinctives. Parce qu'on était rendu à un point avec la PlayStation 2 que...
Les joueurs un peu trop élites, là.
C'est ça. C'était trop élite. Et puis, il fallait s'investir beaucoup dans un jeu pour pouvoir embarquer de manière complète. Bon, c'est sûr que, tu sais, quand à une certaine époque de notre vie, bon, ben, on peut avoir plus de temps pour pouvoir s'impliquer dans des jeux. À d'autres époques de notre vie, ben, on a moins de temps. Alors, tu sais, il fallait penser à tout ça. Bon, c'est ça. Alors, trop d'options. Aussi, moi, j'ai l'impression que dans le 3D, dans les jeux actuels, bon, c'est ça, il y a trop d'options, mais trop d'objets, trop de choses qu'il faut aller voir sur Internet. On suppose dans la jouabilité d'un jeu qu'on peut aller sur Internet pour trouver de l'information.
C'est vrai.
Alors que dans le 2D, il y avait une supposition que tu pouvais essayer de deviner par toi-même tous les aspects.
Quoi qu'il y ait des jeux qu'on en avait parlé, Castlevania par exemple, qui était absolument impossible à passer.
Ah ouais, t'as des aberrations. Là. C'est sûr que le monde est pas tout rose dans le monde des jeux 2D. Bon. Si vous êtes des habitués d'aller voir sur YouTube les chroniques de Angry Video Game Nerd, Angry Nintendo Nerd, eh bien, vous allez vous rendre compte que dans le temps des jeux 2D, là, c'était pas le monde rose qu'on suppose. Là.
C'est clair.
Ben, c'est ça, exactement. Alors, En fait, moi, ce que je trouve, c'est que dans le 3D, aujourd'hui, il y a beaucoup de production, etc. C'est des jeux qui demandent une très grande production. Et puis, ce qui nous manque, c'est vraiment un petit peu plus de spontanéité. J'avais déjà fait la comparaison avec le monde de la musique dans les années 70. Ouais. On en parlait tout à l'heure, le monde de la musique des années 70. Dans la musique rock, il y a eu un espèce d'essor de tout ce qui était expérimentation, longues pièces, et puis beaucoup d'indulgence artistique de la part des artistes. Il y avait accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, et puis ça a fait en sorte que c'est devenu très boursouflé. Alors, une fois que le punk est arrivé à la fin des années 70, vous avez eu des gens qui ont voulu ramener ça aux racines du mouvement rock'n'roll. Alors, vous avez des gens comme les Ramones, Sex Pistols, vous avez les Dead Boys, etc. des Clash, qui ont voulu ramener ça à du rock'n'roll plus primitif. Alors moi, j'attends encore, là, j'attends qu'on puisse arriver à ce point-là avec les jeux vidéo, qu'on arrive avec des jeux plus primitifs, plus basic, mais qui sont toujours tout aussi jouissifs que les jeux avec lesquels on jouait dans le temps.
Et il faut dire aux auditeurs que Mathieu Place en sait quelque chose à propos du rock, puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le rock'n'roll, l'effectus codex », qui retrace l'histoire du rock.
Oui, exactement. Et tantôt, on avait notre invité Alexandre qui nous disait qu'il était une encyclopédie. Là, je me suis dit, ah, moi aussi, je suis une encyclopédie, là. Mais c'était pas la place pour pouvoir parler de rock'n'roll, malheureusement.
Mathieu Place, la transition entre le jeu rétro puis le jeu 3D, là, à partir du moment que c'est rendu plus rétro, là, ça me fait beaucoup penser au moment, tu sais, dans le cinéma aussi, à l'époque où on a passé du non-parlant au parlant, que c'est une espèce de grande. Puis il y avait des gens qui étaient pas d'accord, comme Charlie Chaplin.
Ben, c'est ça, ça a tout changé, hein. Des fois, on regarde des films de Charlie Chaplin qui sont à l'air, qui ont été filmés à l'air où les gens parlaient. Bien, le personnage de Charlot, il parle pas, hein. Presque pas, quelques petites phrases une fois de temps en temps. C'est ça, ça a été un grand choc dans le cas de ce personnage-là, parce que c'était un personnage qui était vraiment muet. Et puis ça change tout le média, hein. Ça change vraiment la manière qu'on fonctionnait avec ce média-là.
Ça change la façon qu'on va interpréter le personnage aussi. C'est vraiment important, tu sais.
Une autre transposition qu'on peut faire, c'est quand la télévision est arrivée. Alors, quand la télévision est arrivée, les gens ont utilisé le média comme si c'était du théâtre ou comme si c'était du cinéma. Alors, ils filmaient des pièces de théâtre carrément, ou encore ils faisaient du cinéma à la télévision. Et puis c'est juste quelques années après, une vingtaine d'années après, qu'on s'est rendu compte de tous les aspects intéressants propres à la télévision. L'aspect direct, l'aspect très cru, court, les vidéoclips, ce genre de choses-là. On peut pas regarder un vidéoclip au cinéma, là, c'est pas intéressant. Tandis qu'à la télévision, c'est intéressant. Alors, même si la télévision ressemblait beaucoup au cinéma, à prime abord, on s'est rendu compte que c'était un autre médium. Alors, c'est pour ça que, justement, avec le 3D, on pense que c'est une amélioration dans les jeux vidéo, mais peut-être pas. T'sais, dans le fond, on devrait peut-être pas abandonner le 2D aussi rapidement, et puis peut-être mettre l'emphase sur beaucoup plus d'innovation et d'originalité dans les jeux vidéo. En passant, si jamais vous êtes les gens que je recherche, là, des espèces de programmeurs de jeux vidéo punk, Destroy, qui font des choses dans leur sous-sol, etc. Eh bien, communiquez avec moi, parce que moi, j'essaie de rassembler tout ce monde-là.
Et tu veux faire un collectif de créateurs de jeux vidéo
Je veux partir un mouvement, là. Voilà. Vous avez juste à communiquer avec moi, Mathieu Place, MATHIEUPLASSE, @hotmail.com. Communiquez avec moi, je vais aller tester vos jeux. Je suis un grand fan de ça. Et puis, on va se partir un mouvement, là, puis on va conquérir la planète. Check bien ça.
De toute façon, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, allez sur puissancemaximale.com, on va s'organiser pour que toute l'information soit là. Sinon, vous pouvez aller aussi dans la section jeux de puissancemaximale.com, et il y a deux jeux que Mathieu Place a fait. Vous allez avoir peut-être une idée de ce que finalement ce qu'il recherche.
De ce qu'on avait en tête.
Des jeux assez intéressants, assez subversifs, assez particuliers, assez étranges. Mettons adultes quand même.
Oui, adultes. Là, les messages qui sont transmis par ces jeux-là sont pas pour les enfants.
Donc, je te remercie beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Donc, Mathieu Place venait nous parler d'un jeu rétro. Qu'est-ce qui a fait que les jeux rétro étaient rétro, et qu'est-ce qui a fait que, finalement, ça a évolué, ça a changé? Et peut-être que ça a été dénaturé, qui sait? Hein? Êtes-vous plus jeu rétro ou jeu récent? C'est à vous.
J'imagine que ça dépend de l'âge aussi. Hein?
Ça dépend de plein de choses.
Question nostalgique.
Moi, je te dirais que j'aime beaucoup les deux. Moi, j'aime beaucoup aussi les jeux rétro. Je joue encore à des vieux jeux, mais ça, souvent, c'est à cause que mon ordinateur est trop mauvais pour fonctionner autre chose. Faut faire fonctionner autre chose. Alors voilà, je te remercie, Mathieu, et on va aller écouter une pièce maintenant de Nerdcore. Ça va être l'artiste EBS. On l'aime bien ici, il fait du Nerdcore, c'est un chanteur français. Et il va chanter une pièce sur Double Dragon. Donc vous êtes à puissance maximale, et on va revenir avec une entrevue avec Geoffroy Lemonde des éditions Légende.
Jimmy, Mopili, Abili, Ampeli, à fond, on le délit, qu'on écrit, Abili, qu'on les lance, c'est délit, qu'on les remonte, se rallie, c'est l'ennemi, nous salit, avec force, on salit, on le repeint, comme Dali, comme Moa, Médali, il nous va, il palie, un homme, on palie, la passion, il délit, le commun, il t'y pas compris, tu relis, choqué par notre éthique, car quand on nous critique, c'est par les points qu'on réplique.
Interposé. Double dragon, double attaque, double claque, point, double ration. Le coup de poing et rejoint notre corporation. Les Street Fighters via la manette, la violation de la buteur ne rend pas honnête. C'est là qu'on voit qu'ils sont les vrais durs.
Pas de place pour les faux, les poses.
Sans look, sans bling et sans fioritures.
La vraie dehors, c'est pour les loses.
Double dragon, double attaque, double claque, point, double ration. Le coup de poing et rejoint notre corporation. Les Street Fighters. La violation de la buteur ne rend pas honnête. C'est là qu'on voit qui sont les vrais durs.
Pas de place pour les faux, les poses.
Sans look, sans bling et sans fioritures.
La vraie vie dehors, c'est pour les losers.
Ouais, cela est un
Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
Héros de légende est une bande dessinée qui porte sur les aventures d'un groupe d'aventuriers dans un monde médiéval fantastique. Cette BD est fabriquée par un groupe de joueurs invétérés de Saint-Hyacinthe et on reçoit l'un de ces joueurs, Geoffroy Lemonde. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, dites-nous, là, à quoi ça consiste exactement cette bande dessinée?
Ben,
C'est bien simple. On a réalisé un peu le rêve d'enfant de tout le monde, je pense, qui joue à des jeux de rôle tels que Donjons et Dragons, là, de mettre sur papier une de nos aventures.
Donc, c'est quel genre d'aventure exactement?
Ah ben, c'est une aventure dans laquelle on a plusieurs joueurs et tous les participants sont, en fin de compte, ceux qui vont et qui participent à écrire les scripts de la bande dessinée en nous rappelant un peu ce qui, il y a un an, à peu près un an et demi, avait été dit, fait et composé et improvisé par les joueurs de ce jeu de rôle-là qu'on jouait.
Là, tu es en train de me dire que chacun des joueurs écrit le script pour son propre personnage?
Oui. De mémoire et de souvenir avec parce que ça fait quand même un an et demi qu'on avait joué cette partie-là puis qu'on la continue encore aujourd'hui. Alors, on a à peu près l'équivalent de, on a estimé 15 à 20 BD d'avance sur l'histoire, mais bien sûr on se réunit tous ensemble quand on fait les textes pour se rappeler, hey, toi t'avais dit quoi à tel moment, c'était bien, t'avais lâché une bonne craque, une bonne joke, un ci, un ça, puis on essaie de tout remettre ça sur papier le plus original puis le plus fidèle à ce qui s'était passé dans le temps.
C'est un beau projet collectif. Mais là, raconte-nous, c'est quoi l'histoire exactement? C'est quoi l'objectif des héros dans le jeu? Est-ce que c'est de sauver le monde?
Héros de légende, là, on a appelé ça comme ça parce qu'on ne sait pas si on allait partir peut-être d'autres BD inspirés de la même histoire ou des mêmes personnages. Mais si c'est avec les personnages qu'on a présentement, qui peuvent mourir en tout temps dans le jeu de rôle dans lequel on joue, on s'était dit on va commencer par la réunion des joueurs. Alors, les trois premières BD qu'on planifie sortir cette année, on a déjà une de sortie qui s'appelle Héros de légende tome 1. Grosso modo, c'est la réunion des six héros principaux qui sont encore les membres fondateurs, si on veut, du groupe présentement dans lequel on joue et qui sont les héros principaux de la BD elle-même. Alors, on s'est dit, on va commencer par ça cette année. Puis l'année prochaine, après ça, on va continuer avec les aventures, mais après ça, ça va être qu'est-ce qui les a réunis, qu'est-ce qui fait qu'ils restent ensemble. Parce que, veux pas, il y a toutes sortes de personnalités fortes, il y a différents buts, il y a différents objectifs, différents rêves. Puis on a tout en quelque part notre petit passé caché qui vient nous rattraper une fois de temps en temps dans le jeu. Puis on essaye de composer avec ça, puis de rester unis malgré les problèmes que ça apporte. Mais pas nécessairement parce qu'on veut l'être, pas parce qu'on a une gang de chums dans la vraie vie qui veulent rester ensemble et qui veulent jouer ensemble. Parce qu'on est fidèle au personnage qu'on s'est créé.
Mais là quand même, là, t'as pas répondu à la question. C'est quoi l'objectif des héros? C'est quoi leur aventure? C'est quoi leur quête?
C'est la vie, c'est... Si on veut, dans la première bande dessinée, c'est de retrouver une petite fille qui a été perdue pas loin d'un lac, d'un endroit qui était relativement dangereux, dans la forêt qui était près d'un village. Mais plus tard, ça devient énorme, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Là. Et là, dis-nous, là, tout ce que le monde veut savoir, est-ce qu'il y a de la baston?
Ça, il y a de la baston, il y a un petit peu de sang, mais on a quand même décidé de pas mettre ça gore, quand même. Là. On a resté quand même assez clean, un peu style Walt Disney, mais un peu plus sanglant, mais donc un Walt Disney. Mais on s'est arrangé justement qu'il y ait un bon mélange d'action et de texte. Puis bien sûr, dans la première BD, il y a un peu plus de baston même qu'il y a de texte, parce qu'il y a beaucoup moins de personnages qui sont impliqués. Au début, il y avait juste deux héros qui se sont réunis. Puis c'est seulement à partir de la deuxième BD, qui est presque finie présentement, qu'il va y en avoir quatre autres personnages, même cinq autres personnages, pardon, pour s'ajouter. Il va y en avoir énormément de texte et encore beaucoup de baston néanmoins, parce qu'on essaie de garder un ratio 50-50. Alors sur 32 pages, on essaie qu'il y aura pas mal d'action quand même là.
À l'intérieur de la bande dessinée, est-ce que vous faites des références au jeu? Est-ce qu'il y a des dés qui apparaissent une fois de temps en temps ou des statistiques quelconques?
Jeu de rôle auquel on joue, mais bien sûr, si on veut pas avoir des problèmes légaux avec eux, alors on se dit, bon, ben on va garder ça au minimum, puis on va quand même faire un clin d'œil aux gens qui connaissent ça. Fait qu'une fois de temps en temps, par exemple, au milieu de la première bande dessinée, il y a un beau petit poster où on voit juste deux héros qui brassent un D20. Alors, juste de dire ça, vous savez, c'est à quel jeu qu'on jouait. Ouais. Qui brassent un D20, puis qui sont confrontés à une espèce de démon, là, puis qui savent que toute l'issue, puis la vie de leur personnage, là, tient un fil, là, tient à ce jeu de dés-là. Là. Et on fait quelques petits clins d'œil à gauche, à droite, à cet effet-là. Puis les classes de nos personnages aussi sont des archétypes assez faciles à reconnaître, qu'on aurait pu, bien sûr, retrouver dans bien des films, là, auparavant, puis bien des romans, là.
Est-ce que les classes sont vraiment définies? Toi, t'es un magicien, moi, je suis un guerrier. Est-ce qu'ils s'en parlent entre eux, ou...
Non, on s'en parle pas. Nous autres, les gens, quand on joue un rôle un peu plus sérieusement, c'est difficile de tomber dans ce dialogue-là, comme on voit dans les petites bandes dessinées à la télévision, des affaires de même. Uh-huh. Et plus que nos personnages sont naturels. Donc, pour eux, c'est évident qu'est-ce qu'ils sont. Fait qu'ils se présentent pas en tant que... Ce serait comme dans la vraie vie. Tu sais, mettons, t'es plombier. Mais par ton nom, tu diras pas « Bonjour, je suis plombier ».
Niveau 20, oui. C'est ça.
Naturel que ça, le niveau d'improvisation et de théâtre qu'on essaie d'apporter au jeu, vu l'âge qu'on a et le nombre d'années que ça fait qu'on joue, on essaie d'amener ça à quelque chose quand même qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus difficile aussi pour nous, qui donne plus de challenge. Alors, il faut que ça soit plus naturel, puis moins... on est moins vagabond, mettons, avec les livres, là.
Et puis, pour le côté de dessin, comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a un dessinateur attitré qui s'occupe de faire le rendu dessin?
On a un dessinateur qui, d'ailleurs, il y a une belle histoire intéressante, lui, parce qu'il voulait être graphiste dans la vie, puis ça n'avait pas marché comme il voulait. Alors, c'est parce qu'il était très, très, très bon en dessin quand il était plus jeune. Et il a décidé d'aller dans toutes sortes d'autres branches artistiques dans lesquelles il a très bien gagné sa vie. Puis là, tout récemment, au travers de Donjons et Dragons, qu'il vient de connaître avec nous autres, là, lui, il jouait pas avant, mais il est un prodige, là, le mec qui joue. Il a décidé de recommencer à dessiner, puis là, il dessine super bien, puis il dessine de mieux en mieux. À chaque dessin qu'il fait, il reprend confiance, si on veut, puis on voit qu'il fait des sauts et des bons là, dans la qualité de son dessin. Alors lui, il va d'une BD à l'autre, là, on le voit d'une page à l'autre, il y a une amélioration nette, là, puis il devient très, 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 très bon, très, très vite, là, comme dans tout ce qu'il fait, qui est artisanal, là, ce monsieur-là.
Là, dis-moi, là, Geoffroy Lemonde, tu as décidé, avec ta gang de chums, de te lancer dans le domaine de la bande dessinée. Mathieu Place aussi, il fait de l'illustration, c'est un gars qui mm-hmm. dessine, c'est son métier même. Dis-moi, c'est pas un peu casse-gueule, vous avez lancé là, une compagnie d'édition comme ça, les éditions Légendes, une compagnie d'édition indépendante pour vous occuper essentiellement de votre bande dessinée, mais c'est pas un peu casse-gueule de faire ça, le métier de la bande dessinée, ça doit pas être nécessairement la panacée?
Ben moi, j'ai déjà une entreprise à moi. Fait que je sais qu'une entreprise ou une bande dessinée ou quoi que ce soit qu'on veut entreprendre et qu'on espère en gagner un certain revenu, que c'est pas une course, c'est un marathon. C'est pas quelque chose qui se gagne vite, vite, vite. Là. Tu pars, puis boum, tout marche bien, puis t'as plus rien à faire, puis ça roule après. Là. C'est pas comme ça que ça marche. À la courance populaire, c'est faut que tu travailles, tu t'y investis continuellement, sans arrêt, sans relâche, sans répit. Puis essentiellement en apprenant le plus possible des erreurs, parce qu'on va en faire. On en fait encore, on va en faire toujours probablement, j'espère juste moins en moins d'une année à l'autre. Puis en effet, c'est un petit peu casse-gueule d'un certain sens, je pense que c'est parti dans cette industrie-là. Parce qu'elle est assez bizarre, à mon avis, parce que dans l'industrie du livre, c'est précisément ce qui est scolaire qui fait vivre les différentes librairies. Et dans le domaine de la BD américaine, ben c'est de la BD américaine. Alors si tu as un médium entre les deux, un produit québécois à proprement dit, qui est francophone, qui appartient ni au monde européen de la BD, ni au monde américain de la BD, un hybride, quoi, entre les deux. En effet, je trouve que c'est courageux.
Ben, c'est une niche à faire, hein. J'imagine que c'est, il faut vous trouviez votre public, là, qui est moins peut-être naturel qu'avec la BD américaine ou la BD européenne directement, là.
Pensez que c'est sûr que n'importe où ils vendent, par exemple, le jeu de rôle, que les gens aiment le divertissement puis aiment juste lire la BD ou est capable d'apprécier de l'art dans les bandes dessinées. On s'est dit, ce sont des endroits extraordinaires pour notre bande dessinée. C'est certain qu'il y a le bon public cible. On espère puis on essaye de contacter justement le plus de boutiques de jeux de rôle, de librairies, de boutiques de bandes dessinées possibles. Mais moi-même, je suis l'administrateur puis c'est moi qui fais la plupart de ces appels-là puis je m'aperçois la taille de l'envergure justement de ce travail-là présentement. C'est par ville, il n'y a pas en bas de 20 endroits là, où est-ce qu'on peut potentiellement vendre un livre ou une publication.
Ben, c'est bien quand même, 20 endroits par ville pour pouvoir mettre vos bandes dessinées.
Au pif, je pense qu'il y aurait 100 000 endroits où on peut vendre une publication au Québec. Fait qu'entreprendre ça au téléphone, comme je le faisais, ou avec des courriers postaux ou des emails, là, je m'aperçois de plus en plus, c'est un job incroyable. Là. Ça se peut pratiquement pas un homme faire ça tout seul. Même de plus en plus, on essaye de faire affaire avec des maisons de distribution pour que profiter un peu de leur réseau, même si on perd un peu de notre profit dans le processus. Ils font du beau travail, ces gens-là, puis j'apprécie vraiment l'ampleur de la job qu'ils ont. À cette heure que j'ai essayé de le faire moi-même, là, c'est colossal comme travail.
Là, dis-nous, Geoffroy Lemonde, parlons un peu. Toi, personnellement, tu es un des joueurs de... parce que c'est évidemment un groupe de joueurs qui participent dans les aventures des héros de légende, cette bande dessinée. Et toi, tu es un de ces joueurs-là. Peux-tu nous décrire un peu ton personnage?
Ben moi, j'ai joué un personnage qui est assez spécial, parce que je voulais avoir un défi vraiment là, quand j'ai décidé de faire ça. Puis c'est un personnage qui est dans la deuxième bande dessinée, qu'on voit partiellement à la fin de la première aussi, qui est un personnage fait en pierre. Un peu comme dans le langage...
Un golem, peut-être?
C'est pratiquement un golem ou une création magique artificielle, tu sais. Une forme de vie artificielle, mais magique. Puis j'ai décidé de jouer ce personnage-là parce que je voulais jouer quelque chose qui était déshumanisant, qui était en recherche, si on veut, de quelque chose de semblable à lui-même. Ça, c'était ça le défi que je voulais relever avec ça. Puis j'ai trouvé une classe de personnage dans un des mondes, le jeu de rôle qu'on joue, qui correspondait exactement à ça. Alors j'ai emprunté tout simplement le schéma du personnage, puis on a trouvé une manière intelligente de l'introduire dans l'aventure, puis une manière en même temps aussi que, bien sûr, tu sais, ça rentre pas dans toutes les villes, ça rentre pas dans tous les villages, ces choses-là, correctement, ce personnage-là, puis les interactions sont difficiles, puis racialement parlant aussi, sont souvent très ambiguës.
Écoute, Geoffroy, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie de l'entrevue. Alors, on répète les éditions legendes.com si les gens veulent en savoir plus. Ils veulent peut-être découvrir la bande dessinée, peut-être l'acheter. C'est disponible dans certains endroits. Il y a certains lieux de distribution et c'est possible de l'acheter sur Internet. Donc, les éditions legendes.com. Je te remercie beaucoup, Geoffroy, d'être passé à l'émission.
Je vous remercie, moi aussi. Merci de l'opportunité.
Ciao. Donc voilà, c'est tout pour l'émission Puissance Maximale. Alors j'espère que vous avez apprécié. Vous étiez en compagnie de François Gécouillard. Mathieu Place était là aussi.
Yes, oui, salut.
Et on avait aussi Alexandre Desrosiers de Binox, oui, qui est venu nous voir pour nous parler de ça. Alors c'est tout, puissancemaximale.com, allez voir ça. Sinon, bonne semaine.
Bye.